Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et on rappelle, dans votre émission ce soir, nous parlons de l'élection manifestement jouée d'avance à la présidence de la Confédération africaine de football ce vendredi. Et d'abord, nous retrouvons notre invité décryptage sur l'Algérie.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Linda Améry, bonjour.
Bonjour.
Directrice du laboratoire Minéa, migration, interculturalité et éducation en Amazonie, rattachée à l'Université de Guyane où vous êtes basée. Vous êtes également auteur de plusieurs articles et ouvrages, dont Algérien en France, 1954-1962, La guerre, exil, la vie, code signé avec Benjamin Stora. Le président français Macron a décidé de faciliter à partir de ce mercredi 10 mars l'accès à certaines archives de la guerre d'Algérie, jusque-là classifiées. Très bonne avancée pour les chercheurs.
Sur le principe, oui. On voit qu'il y a quelques avancées, mais qui restent encore timides. Il faut rappeler que dans le communiqué, en fait, on a quelques points qui, moi, me surprend un peu. Déjà, d'une part, en fait, la classification, elle se fait uniquement... Elle va se faire par carton, si vous voulez, dans les archives, lorsqu'un chercheur va consulter des documents sur la guerre d'Algérie, mais pas que, puisque c'est la question de la classification des archives concerne toutes les archives sensibles, y compris ceux de la Deuxième Guerre mondiale, y compris ceux de la période de Vichy, jusqu'en 1970. 1970, c'est le départ du dernier soldat français d'Algérie. Donc, quand on veut travailler en tant qu'historien et historienne sur la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, on consulte un ensemble de cartons. Actuellement, on les consulte, on n'a pas le droit de les photographier. C'est un grand travail fastidieux. Mais en tout cas, la déclassification qui se fait par carton, elle ne concerne que deux services, les archives diplomatiques et les archives de l'armée de terre. Or, beaucoup d'archives sont dans l'archive nationale, et donc la déclassification ne concerne pas les fonds qui sont dans l'archive nationale. Ce qui fait que quand on veut travailler sur les archives nationales, on reste dans la règle précédente, c'est-à-dire que la déclassification se fait feuillet par feuillet, qui entrave encore considérablement notre travail d'historien.
Donc, on passe de feuillet par feuillet à carton par carton. Cela ne facilite
pas... Pour deux fonds d'archives.
Oui.
Pour seulement deux fonds d'archives, pour les archives diplomatiques et les archives de l'armée de terre. Pour le reste, la circulaire semble... Je dis semble, pour le reste, la circulaire va perdurer. C'est-à-dire, si vous allez aux archives nationales de France, là, on reste dans l'ancienne circulaire, feuillet par feuillet. Donc là, rien ne change.
Donc pour vous, Madame Améry, c'est une avancée apparente et pas réellement majeure.
Oui, c'est ça. C'est une avancée timide. En fait, la chose qui est aussi intéressante, c'est que le président Macron se rencontre et formule bien qu'il y a une contradiction, c'est-à-dire que en fait, au-delà des archives, de la question des classifications, on se pose une question juridique. Pour ça, vous avez plusieurs associations, dont l'association des historiens contemporains, qui sont portées l'affaire au tribunal. C'est-à-dire que, normalement, le code du patrimoine autorise l'ouverture de la déclassification des archives au-delà de plus de 50 ans ou 60 ans, je ne sais plus. Et là, en fait, donc le code du patrimoine n'est pas appliqué, puisqu'il y a une circulaire qui date de 2008 et d'autres circulaires qui ont entravé ce code. Donc, en fait, dans le communiqué, si vous regardez, la deuxième partie, c'est que le président Macron s'engage à améliorer le dispositif et l'arsenal législatif pour que l'ouverture des archives soit... pour qu'on ait cette fois-ci une cohérence entre le code du patrimoine et le code pénal. Donc ça, c'est intéressant, sauf qu'on n'a pas du tout de calendrier, on ne sait pas du tout comment ça va se passer.
Quelle est votre explication de cette vitesse, qu'on va dire, de tortue, avec laquelle le président Macron, si je m'en tiens à vos explications, semble marcher sur ce dossier de la déclassification des documents de la guerre d'Algérie?
Il hérite d'une situation qui remonte à 2011. Avec une fermeture donc de l'ouverture des archives. J'ouvre une parenthèse, avant 2011, vous avez toute une génération d'historiens des théories de la Méditerranée qui ont travaillé sur ces cartons. Donc il y a eu, avant 2011, une politique d'ouverture. Après 2011, une politique de fermeture. Donc le président Macron a hérité de cette situation et il avance effectivement à petits pas, mais dans le cadre de des relations franco-algériennes, il se saisit en fait du rapport de Benjamin Stora pour tenter d'avancer prudemment, mais d'avancer quand même, avec quand même des fortes...
Donc vous pensez qu'il n'a pas les moyens politiques d'aller plus vite, même s'il le souhaitait, dans ce dossier?
Je pense qu'effectivement, il a au sein de, sur la question des archives, il y a des freins importants, notamment autour des archives de l'armée de terre, et qui doit composer avec.
D'autres experts aussi s'indignent et s'inquiètent de ce qu'il n'y ait pas eu des classifications ou des documents concernant les essais nucléaires français dans le Sahara algérien.
C'est vrai que la déclassification ne concerne pas les essais nucléaires dans le Sahara algérien, au grand dam des autorités algériennes, puisque ça fait des années que l'Algérie réclame une déclassification. Ça touche les intérêts français. Mais là, encore une fois, on était dans un contexte colonial et la déclassification de ces archives était aussi attendue. C'est révélateur des résistances qui demeurent, en fait, autour de ces archives du côté français.
Mais dans ce cas-là, madame, est-ce que ces gestes jugés insuffisants vont vraiment contribuer à réconcilier les mémoires entre Algériens et Français?
Ces gestes-là, du côté algérien, ont été quand même bien accueillis. Au départ, lorsque le rapport de Benjamin Sera a été publié, il a été quand même accueilli de manière assez fraîchement, j'allais dire, par les Algériens, à la fois la déclassification des archives et la reconnaissance du meurtre d'Ali Boumendjel. C'est un geste d'apaisement, mais qui...
Qui sont insuffisants?
Alors, pas insuffisants pour réconcilier Algériens et Français, parce que je pense qu'il faut vraiment regarder la situation à deux niveaux. Du côté de la société française et de la société algérienne, on a des milliers d'exemples qui montrent que la réconciliation est déjà de fait depuis bien longtemps.
Linda Miri, merci beaucoup.
Merci à vous.
Directrice du laboratoire Minéa de l'Université de Guyane, auteur de plusieurs articles et ouvrages sur l'Algérie, dont « Algérien en France, 1954-1962 », co-signé avec l'historien Benjamin Stora.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 18h15 à Paris et à Douala. Merci d'être avec nous dans cette édition du Grand Rendez-vous. Et nous parlons ce soir de l'élection du président de la Confédération africaine de football prévue vendredi après-demain, donc 12 mars à Rabat au Maroc. Est-elle jouée d'avance ou faut-il s'attendre à une surprise? Et nous en débattons ce soir avec trois invités. Roger Mila, bonsoir. Allô, Monsieur Mila, vous m'entendez?
Je vous entends.
Ancien international camerounais et ambassadeur itinérant, en ligne de Dakar au Sénégal, Mayassine Mar, directeur technique national de la Fédération sénégalaise de football. Monsieur Mar, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci d'être avec nous. Merci également à vous, Tanou Diallo, journaliste au site guinéen Guinée News et expert média à la Confédération africaine de football. Bonsoir, Monsieur Diallo.
Bonsoir madame et bonsoir à tous ceux qui nous suivent.
Merci, vous êtes en ligne de Bruxelles en Belgique. Et je vais commencer avec vous monsieur Mila parce qu'il y a quelques semaines lorsque nous évoquions la tournée de Gianni Infantino en Afrique, vous inquiétiez de ce calendrier du moment auquel il a choisi pour effectuer cette tournée. Est-ce qu'avec les derniers développements relatifs notamment au retrait des candidatures du Sénégalais, de l'Ivoirien et du Mauritanien, vous dites finalement vos inquiétudes étaient fondées? Monsieur Mila? Allô, Monsieur Mila, il est pourtant en ligne avec nous, il ne nous entend pas. Je vais peut-être venir à vous, Monsieur Mayassine Mar. Votre candidat, Augustin Senghor, s'est retiré finalement de la course. Comment la nouvelle a été accueillie dans la famille du football sénégalais?
Oui, bon, c'est vrai que nous avons eu l'information par le biais de la presse. Et l'information disait effectivement qu'il y a un protocole entre donc les candidats pour la présidence de la CAF. Et les gens allaient vers un consensus et avaient même proposé des postes, effectivement. Mais bon, c'est vrai que du premier coup, bon, les réactions étaient différentes, hein, parce que chacun peut-être donnait son point de vue par rapport à la question. Surtout que bon, quand nous sachions effectivement que notre président Senghor avait fait une très très bonne campagne et avait décliné également un programme très ambitieux, vraiment, pour lequel, en tout cas, beaucoup de pays ou en tout cas beaucoup de personnes s'étaient engagées autour, en ayant effectivement mis en place une équipe de campagne qui a sillonné pratiquement certains pays, et également aussi au niveau de la CAN, au Chad, au Cameroun. Donc, en fait, on croyait à de réelles chances au président Senghor vraiment de pouvoir briguer en tout cas le poste de la CAF.
Et vous dites donc, vous avez été un peu surpris puisque vous l'avez appris dans la presse. Est-ce que vous sentez frustré du fait que finalement toute cette mobilisation dont vous venez de parler s'avérerait inutile et vaine si jamais effectivement il y avait ce deal visant à privilégier le candidat sud-africain au détriment évidemment des trois autres, dont le vôtre.
Mais il fallait d'abord être prudent et peut-être attendre la personne indiquée, peut-être, si cela s'avérait, et expliquer un peu et donner les raisons pour lesquelles, effectivement, il y a eu cet arrangement-là. Il est clair que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous le constatez, effectivement, bon, ce protocole, effectivement, existe. Et peut-être, à la première réunion de Rabat, je pense que notre candidat n'a jamais été d'accord sur ça, en même temps qu'Anouma d'ailleurs. Parce qu'en fait, ils ne comprenaient pas exactement que cette réunion qui était dévolue pour les trois candidats de l'Afrique de l'Ouest soit effectivement devienne une réunion où effectivement il y a la présence donc de l'Afrique de Patrice et également aussi de la FIFA.
Certains médias sénégalais, c'est la dernière question, on écoutera d'autres, affirment que le candidat sénégalais, M. Senghor, aurait reçu la pression, aurait été mis sous pression du président Macky Sall, lui aussi, après avoir négocié avec les présidents sud-africains Ramaphosa et rwandais Kagame. Est-ce que vous avez des informations précises sur cet aspect?
Oui, non, mais je ne pense pas qu'il y ait une pression, en tout cas, de la part du chef de l'État sur la candidature de Senghor, sur, par exemple, son choix. Je pense que d'abord, c'est quand effectivement que ce protocole, n'est-ce pas, a été mis en place et que les gens ont argumenté, n'est-ce pas, ont discuté sur un consensus de programme, sur, en tout cas, un certain nombre de problèmes, n'est-ce pas, à gérer ensemble et à avoir une vision qui est simplement en fait de développer le football en Afrique. Et je pense que lui, il a assuré sa décision, effectivement, à un échange, effectivement, avec d'abord le chef de l'État et également aussi les membres de son équipe. Je crois que c'est normal.
Merci.
Et c'est ça. Donc, ça n'a pas été une pression. Voilà.
Donc, il n'a reçu aucune pression du président Macky Sall.
Non, pas du tout.
Voilà. Je crois que Roger Mila, à présent, nous entend. Monsieur Mila, vous êtes là?
Oui, je vous entends.
Oui, monsieur Mila, je dis... je ne sais pas, je vais mieux me rapprocher de mon micro en espérant que ça va s'améliorer. Alors, je disais qu'il y a... Monsieur Mila ?
Je vous entends mieux, là.
Voilà, vous étiez déjà inquiet il y a quelques semaines lorsqu'on évoquait dans cette émission la tournée entreprise par le président de la FIFA en Afrique à quelques semaines justement de cette élection, du moment choisi pour faire sa tournée. Est-ce qu'avec les derniers développements, le retrait annoncé désistement de certains candidats, vous vous dites finalement mes craintes étaient légitimes?
Oui, tout à fait, mes craintes étaient... légitime, hein. On savait bien que ça allait finir de cette manière. Mais moi, je dis tout simplement que c'est un déshonneur par rapport au football africain, par rapport à notre continent. C'est une catastrophe qu'on ne peut pas réparer. C'est comme si les présidents de toutes ces fédérations-là ne pouvaient pas mettre leur candidature pour devenir aussi président de la CAF. Comment ça peut se faire, ça? Moi, je ne comprends pas.
Vous êtes choqué?
Je ne comprends rien du tout. Je suis choqué, je ne comprends rien du tout. Vraiment, je ne comprends rien du tout, je suis choqué. vraiment choqué.
Mais lorsqu'on dit, M. Mila, vous parlez des présidents de la, des fédérations qui vont être probablement frustrés de ne pouvoir voter de manière indépendante, mais il semble bien, d'après plusieurs sources, que ce sont les chefs d'État eux-mêmes. On a perdu Roger Mila, donc je m'arrête net avec la relance que je m'apprêtais à lui faire. Tanou Diallo, est-ce que vous comprenez la colère de M. Mila sur ce qui se passe à quelques jours de cette élection cruciale?
Ben, vous savez que nous sommes en politique. C'est que la décision qui a été prise au final, ce protocole d'accord, on l'a vu venir parce que nous tous, on a vu le président de la FIFA aller visiter beaucoup de pays africains, rencontrer plusieurs chefs de l'État. On sait que les décisions se prennent à ce niveau-là. C'est au niveau des chefs d'État, ce sont les chefs d'État qui donnent pratiquement les consignes de vote au président de fédération. Et au final, on a pensé que peut-être que M. Senghor, ou en Afrique de l'Ouest, comme vous le savez, on avait trois candidats, dont l'Ivoirien Jacques Anouma, le Mauritanien Ahmed Yahia, le Sénégalais Senghor. Et on a pensé au départ que ces trois-là allaient s'entendre pour présenter une candidature unique à la présidence de la CAF. Ils ne pouvaient pas s'entendre parce que tout simplement, Ahmed Yahia était beaucoup plus proche de la position de la FIFA.
Un moment, on l'a présenté comme le candidat de la FIFA.
Exactement. Donc, c'était une autre carte de la FIFA, en plus du Sud-Africain Motsepe. Et l'Ivoirien Jacques Anouma, à cause de son âge, lui demandait à ce qu'on lui permette de faire un mandat, parce qu'après ça, il ne sera plus éligible à la tête de la CAF. Et Senghor, qui est là, qui a un très bon programme et qui connaît cette maison de la CAF, il s'est dit que c'est le moment, c'est son tour maintenant d'être le président de la Confédération africaine de football. Donc à partir du moment où ces trois-là ne pouvaient plus s'entendre, ben écoutez, la carte que la FIFA était en train de jouer, c'était beaucoup plus facile de régler. Et on a vu le président de la FIFA faire cette tournée africaine, rencontrer les chefs de l'État. Donc on a vu en quelque sorte ce consensus se dégager petit à petit. Parce que les candidats se sont dit quoi? Ils se sont dit, si je continue la bataille, au final je vais me retrouver avec rien. Donc je ne serai même
et
pas...
Et justement à ce sujet, Jacques Anouma a déclaré que il a reçu une lettre de la FIFA lui demandant de justifier les moyens utilisés pour battre campagne, et d'après ce qu'il expliquait, c'est comme si c'était une façon, c'était des représailles après son refus de s'associer à la démarche de la réunion de Rabat.
Je pense que Jacques Anouma, c'est quelqu'un, il est dans le milieu depuis plusieurs années, donc il a beaucoup d'expérience. Tout de suite, il a compris ce qui allait se passer et il a voulu rester dans la course, mais au final, il s'est rendu compte que s'il insiste, il n'aura absolument rien. Donc, il s'est rangé derrière la FIFA, il a accepté de signer l'accord. Et finalement, on sait que demain, normalement, il devrait devenir le conseiller général du président de la Confédération africaine de football. S'il n'avait pas accepté cela, c'est ce qu'il allait devenir. Il n'est pas président de la Fédération ivoirienne de football, donc il ne serait plus rien dans le milieu du football. Et avec son âge, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les élections prochaines, il n'est plus éligible.
Il aurait donc, forcément coup, subi, d'après vous, des représailles.
Des représailles, les représailles, c'est quoi? C'est tout simplement parce qu'il n'allait rien avoir. Donc, si vous avez cette opportunité de rester dans le jeu, de rester dans le milieu du football, mais vous saisissez cette opportunité et puis vous rangez derrière la décision qui a été prise par tout le monde.
Vous acceptez plutôt que de ne rien avoir. On va marquer une pause et on me fait signe qu'on a retrouvé Roger Mila, qu'on va écouter juste après cette petite pause. Nous allons continuer à parler des conditions dans lesquelles se prépare donc l'élection à la tête de la Confédération africaine de football vendredi prochain et des conséquences de cette situation sur le football africain lui-même.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
L'élection vendredi prochain à la présidence de la Confédération africaine de football est-elle jouée d'avance? Nous en débattons ce soir avec Tanou Diallo, journaliste et expert média à la Confédération africaine de football. Il est en ligne de Bruxelles, en Belgique. Yassine Mar, directeur technique national de la Fédération sénégalaise de football à Dakar. Et Roger Mila, ambassadeur itinérant et ancien international camerounais en ligne de Yaoundé. Et que nous allons réécouter, Monsieur Mila, vous êtes de retour, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Vous disiez tout à l'heure que ce qui se passe est une catastrophe pour le football africain qu'on ne peut pas réparer. Et M. Yassine Mar du Sénégal affirmait que M. Senghor avait un très bon programme. Mais on se rend compte qu'il ne suffit pas seulement d'avoir un bon programme pour être élu à la tête de la Confédération africaine de football, qu'il y a des considérations extra-football, la politique notamment.
Ouais, bon, je ne pense pas que ce soit la politique, c'est peut-être la politique de la FIFA. Comment pouvez-vous imaginer que la même FIFA... C'est la même FIFA qui dit souvent qu'il y a des pays qui s'ingèrent dans le football. Et c'est eux aujourd'hui qui passent par cette même politique. Moi,
excusez-moi, monsieur Mila, je le disais parce que il y a plusieurs sources qui affirment que monsieur Infantino a réglé l'élection avec les chefs d'État africains au cours de leur tête-à-tête. Il en a rencontré plusieurs. On parle de présidents sud-africains, rwandais et sénégalais qui ont joué un rôle important dans le choix qui semble se porter sur Mossemo Tsepé.
Non, je ne pense pas cela, madame. Je ne pense pas que Infantino aille dans une présidence de la République, aller s'asseoir devant un chef d'État pour faire de la corruption. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, ça veut dire que les chefs d'État qu'il a rencontrés sont aussi corrompus. Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. En tout cas, ce qui est de notre président de la République, il n'est pas corrompu à ce niveau-là. Ça, je ne pense pas.
Donc si le président africain accepte de jouer le jeu de la FIFA, ça veut dire qu'ils sont corrompus.
Mais c'est de la corruption. Madame, c'est de la corruption. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Peut-être que je ne suis pas licencié en français ou en quoi que ce soit. Dis-moi, que ça s'appelle comment?
Mais il semble qu'il y a aussi des négociations, des contreparties. Je prends le cas, par exemple, du Maroc qui n'avait pas de candidat, mais la réunion de fin février dont on parle a eu lieu au Maroc. Le Maroc a joué un rôle dans cette recherche de consensus. Peut-être en retour, il y aura un moment ou un autre où il recevra des retombées de la part de la FIFA. Il ne s'agit pas forcément de corruption, peut-être.
De quoi je me mêle? De quoi le Maroc se mêle? De quoi? Dites-moi un peu. Le Maroc est tout le temps là en train de contredire le football africain. S'ils ne sont pas africains, qu'ils ne jouent plus au football africain. Moi, je ne comprends pas. Ils sont tout le temps là en train de contredire le football africain. De quoi je me mêle? Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. En tout cas, moi, je suis très dessus de tous ceux qui étaient candidats, que ce soit Anouma ou Senghor ou autre. Moi, Senghor, je l'ai croisé ici à Yaoundé, mais attendez, je ne voyais pas en Senghor quelqu'un qui peut s'accepter ce genre de corruption.
Merci, M. Mila. Mais en même temps, tout à l'heure, on semblait, M. Tanou Diallo semblait dire qu'ils n'ont pas beaucoup de choix en évoquant le cas de M. Anouma.
Ils n'ont pas beaucoup de choix, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que M. Anouma, par exemple, ne peut plus se représenter parce qu'il est frappé, il sera frappé par la par l'âge, par la limite d'âge. Il ne pouvait pas faire autrement que d'accepter le protocole et la proposition que lui avait faite la FIFA, d'être conseiller du président.
Il accepte alors le protocole pour être quoi? Conseiller? Pour être conseiller, est-ce que c'est ça qui convient au président Anouma? Pour être conseiller? Non, sincèrement, c'est grave.
Merci.
C'est grave ce qui se passe.
Merci, M. Mila. Vous restez avec nous. On va écouter. M. Mar, vous avez défendu que M. Anouma avait un bon programme. Finalement, tout ça va aller à l'eau. Et si il est vrai donc que c'est le candidat de la FIFA qui va passer, M. Motsepe, finalement, ce sera l'agenda du football africain qui pourrait en payer le prix, non? Puisque ce sera celui forcément de la FIFA qui pourrait dominer.
Oui, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, on aurait souhaité effectivement que les candidats aillent aux élections et chacun, effectivement, essaie d'avoir les chances qu'il faut pour passer. C'est la réalité. Mais vous savez que les élections comme la CAF, comme la FIFA, comme également d'autres élections, ce sont des élections à enjeu. Et on ne peut pas épargner, effectivement, les politiques. On ne peut pas épargner également aussi toutes ces personnes qui sont des influenceurs, comme on le dit. Alors là, il est question de dire, effectivement, que la FIFA s'ingère, effectivement, dans les affaires de la CAF. Je pense que ça, personne ne peut nier aujourd'hui que la FIFA a des intérêts en Afrique. Ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la FIFA a un candidat. C'est la réalité aujourd'hui. Et le candidat a été déclaré, c'est Patrice. Et il voudrait effectivement que les candidats, le candidat effectivement, se rangent derrière Patrice. Alors, maintenant, après, il faut voir le pour et le contre. Aujourd'hui, comme l'a dit Tanou, aujourd'hui, ils auraient retiré leur candidature, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que ce qui est important, oui, je vais vous dire, aujourd'hui, est-ce qu'il est question de s'asseoir sur un fauteuil ou de faire valider un programme pour lequel vous pensez qu'effectivement, qu'il peut être mis en jeu?
Mais justement, c'est là la question. Il semble que les candidats eux-mêmes aient choisi de défendre leur position personnelle. Pourquoi n'ont-ils pas décidé de manière, je veux dire, solidaire, de peut-être de retirer tous les trois leur candidature et de laisser donc M. Motsepe compétir, aller seul à cette élection?
Mais justement, sur les trois, il n'y a que deux qui se sont opposés à la première réunion par rapport effectivement au protocole. M. Ahmad, qui était déjà lorgné comme étant le candidat de la FIFA, en fait, il ne l'a pas été. Le candidat de la FIFA, c'est en fait monsieur Patrice. Et la FIFA l'a expliqué les raisons. Ils ont voulu avoir quelqu'un qui était en dehors de la CAF, en dehors de la FIFA, un nouveau peut-être pour régler les problèmes des annonceurs. Donc c'était le choix.
Mais une fois cela était connu par les candidats, pourquoi ne se sont pas retirés pour protester contre cette ingérence, comme vous dites, de la FIFA? Ils ont accepté des postes.
Oui, mais protester, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, pour se battre, il faut être à l'intérieur. On ne peut pas se battre en restant à l'extérieur, madame. Pour se battre, il faut être à l'intérieur.
C'est une façon de voir.
Il faut se mettre à l'intérieur. Parce que, vous savez, aujourd'hui, Senghor s'est retiré, Anouma s'est retiré, il resterait Ahmad et Fabrice. Et après, peut-être, Patrice. D'autres vont arriver, n'est-ce pas? Mais malheureusement, ce qui va se passer, c'est que malheureusement, pour ces personnes qui ont un bon programme, quand est-ce qu'ils auront l'occasion de mettre en place ce programme-là? Mais à partir du moment où le consensus accepte aujourd'hui de confondre tous les programmes en un seul programme, c'est déjà un pas.
Merci
à partir
beaucoup.
Du moment où maintenant, ce n'est pas le programme de Patrice, mais c'est le programme de tous les candidats qui ont été. D'ailleurs, je pense que la réunion de qui va commencer aujourd'hui, avant donc l'élection le vendredi, va travailler autour de programmes communs.
Merci
de
beaucoup.
Tous les candidats.
Monsieur Tanou Diallo, alors. Tout semble indiquer que voilà, tout a été ficelé d'avance. Il y aura donc peut-être une mise en scène juste vendredi prochain, peut-être une élection par acclamation, puisque nos sources au niveau de la commission électorale affirment que les candidats, même le jour de l'élection, peuvent se lever et dire qu'ils se désistent. Et à ce moment, il n'y a plus d'élection à bulletin secret. Si les choses se passent comme telles, alors quelles seront finalement les conséquences pour l'image même du football africain?
Bon, écoutez, c'est un scénario inédit quand même, parce qu'on se rappelle en 2017, quand le président Ahmad est sorti contre Issa Hayatou, il y avait élection, il y avait un enjeu, et personne n'aurait imaginé que le président Ahmad allait remporter les élections. Mais il faut toujours rappeler ce qui s'était passé en 2017 encore, c'est la FIFA qui était à la manœuvre, donc c'est la FIFA qui a permis au président Ahmad de battre Issa Yaku, qui est resté pendant plus de 20 ans à la tête de la Confédération
africaine
de football.
30 ans, oui. Plus, donc, presque 30 ans. La même FIFA qu'on accuse d'avoir tout fait pour écarter Ahmad.
Qui a manœuvré
à travers le TAS.
Exactement. Donc, maintenant que Ahmad il n'a plus les mêmes intérêts que ceux qui sont à la tête de la FIFA aujourd'hui, vous avez vu comment il a été éjecté. Donc, du coup, lui, il est parti. Demain, on aura un nouveau président de la Confédération africaine de football. On espère que ce président-là, il va changer les choses. Aujourd'hui, nous sommes dans les a priori. On ne sait pas ce qui va se passer demain, mais on espère qu'il va sortir le football africain de sa léthargie actuelle. Parce qu'il faut le dire clairement, moi, je suis à l'intérieur de l'organisation. Mais là, sur cette émission, je suis en train de parler en tant que journaliste. Il faudrait que les choses changent. Il faudrait que les choses changent parce que tout simplement, il y a des choses qui se font actuellement, on ne les fait pas pour aider le football africain à se développer. Donc demain, on aura un nouveau président de la Confédération africaine de football. Je connais le président Senghor, qui est un cadre compétent, qui connaît bien le football, qui connaît bien ce milieu-là. Et je suis convaincu qu'il ne sera pas un béni oui-oui à côté du président Motsepe. Il faut rappeler le background du président Motsepe, c'est aussi un multimilliardaire, il a beaucoup d'argent, donc c'est un businessman. Donc, et cette CAF-là, peut-être que cette CAF-là a besoin d'une personne comme ça aujourd'hui pour renflouer les caisses. Il faut rappeler que financièrement, ce n'est pas aussi comme ça actuellement. Donc, on espère qu'il sera un bon président à la tête de la Confédération africaine de football, même si personnellement aussi, je ne partage pas la manière dont il va être président de cette institution-là. J'aurais voulu que chaque candidat parte sur le terrain avec son programme, qu'il défend son programme et que demain, qu'on ait demain quatre candidats face à face.
Merci.
Les présidents de confédération et les présidents de fédération, qu'ils votent pour le candidat qu'ils pensent être le mieux qualifié pour le football africain.
Merci beaucoup.
J'aurais souhaité que ça se passe comme ça. Maintenant qu'on l'a réglé autrement, on attend de voir ce qui va se passer dans les années à venir.
Monsieur Mila, alors tout donc, les dés sont pipés, semble-t-il. Mais dans une interview, je crois hier, le président, le candidat sénégalais, parce qu'il faut dire qu'au niveau de la commission électorale, on nous affirme qu'aucun des quatre candidats ne sait formellement désister. Le président, le candidat donc du Sénégal, disais-je, a dit qu'une surprise n'est pas exclue vendredi prochain. Monsieur Mila,
toute surprise, je pense pas qu'il y ait encore des surprises. Hein. Les dés sont jetés. Hein. Je pense pas qu'il y ait encore des surprises. Mais c'est tout simplement dommage pour notre football, surtout pour nous les Africains. Moi, je peux pas comprendre. Parce que ce que la FIFA fait là, la FIFA ne peut pas aller en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Océanie, je sais pas ailleurs.
Mais il le fait aussi avec le soutien et ou bien la complicité tout au moins des Africains, M. Mila.
Mais c'est pour ça que je dis que la FIFA, complicité ou pas complicité, la FIFA n'a aucun droit de faire ce qu'elle fait. Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait. Hein? Tout un président qui se déplace pour aller corrompre les présidents africains.
Mais si en même temps, les Africains faisaient bloc contre cette méthode que vous n'approuvez pas, la FIFA n'aurait jamais réussi à imposer ses choix aussi.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est parce que comme nous-mêmes les Africains, nous sommes corrompus, mais ça peut que nous arriver. Et c'est dommage. C'est pas dommage pour ces dirigeants, hein. C'est surtout dommage pour les footballeurs. Parce que c'est les footballeurs qui en pâtissent. C'est dommage pour les footballeurs. C'est dommage pour les gens qui se sont tués. On a fait couler notre sang et tout pour que notre football africain soit là où il est aujourd'hui, là, et que les gens viennent le gaspiller comme ça, là, par la corruption. Non. On n'a jamais vu cela. Jamais. Hein? Et jamais vu cela. Ça a commencé par le président Issa Yaku. On a pensé que le candidat, ce candidat de la FIFA allait faire des merveilles. Écoutez, il est passé complètement à côté. Il a été sanctionné par la FIFA même. Mais à quoi ça sert ?
Merci.
À quoi ça sert ?
Merci, monsieur Mila.
Le football africain, il est mort, le football africain, il est mort. Moi, je suis désolé. Je sais que tous les footballeurs africains me coûtent et me comprennent. Moi, j'ai eu quelques messages. Je suis un peu
Merci, monsieur Milan. On comprend que vous êtes dépité par ce qui se passe. On marque une dernière pause et on se retrouve pour poursuivre notre débat et faire aussi la conclusion.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
L'élection à la présidence de la Confédération africaine de football vendredi à Rabat nous réservera-t-elle quelques surprises ou est-elle jouée d'avance? C'est le thème de notre débat ce soir avec Roger Mila, ancien international camerounais en ligne de Yaoundé, Maya Sinmar, directeur technique national de la Fédération sénégalaise de football à Dakar, et Tanou Diallo, journaliste à Guinée News et expert média à la CAF. Il est en ligne de Bruxelles. Messieurs, donc, voilà, le choix se négocie pour le moment hein, du président par des non-africains. Vous avez parlé de la FIFA, donc, alors que les non-africains sont concernés au premier chef. Comment le nouveau président de la FIFA peut-il sereinement gérer et gouverner pendant son mandat dans de telles conditions où il y a beaucoup de controverses autour des conditions de son élection? Je commence avec vous, Monsieur Maya Sinmar.
Mais je voudrais d'abord, si vous me permettez, revenir un peu en arrière. Vous savez, aujourd'hui, on n'a qu'à s'apprendre à nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de difficultés avec certaines fédérations, avec beaucoup de malversations, n'est-ce pas, sur les projets, sur les financements de développement du football en Afrique. Quand d'abord, nous, associations africaines, nous avons des fédérations qui sont déficitaires et que la FIFA également aussi essaie de nous appuyer et que cet argent est détourné régulièrement, je pense que tout le monde est au courant de la difficulté de beaucoup de présidents qui sont mis en prison, etc. etc. Je pense que tout ceci, n'est-ce pas?
Cela donne une légitimité à la FIFA de s'ingérer dans le football africain?
Mais justement, ça dit que nous avons ouvert les portes pour que la FIFA s'ingère. On a prêté le flanc, c'est la réalité, il faut l'accepter aujourd'hui. Il faut l'accepter. Dans d'autres confédérations, mais peut-être ces problèmes-là n'existent pas. Les gens gouvernent, ils ont une bonne gouvernance de leur fédération. Il n'y a pas de difficulté. Mais ce n'est pas le cas en Afrique aujourd'hui.
D'accord.
Ce n'est pas le cas en Afrique. Et à partir de ce moment maintenant, comme la question maintenant à la réponse, la question c'est qu'aujourd'hui, je pense très sincèrement, une fois qu'il y a un consensus autour du programme, parce que moi c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que Fabrice est président, Senghor est vice-président. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, chacun des candidats qui avait un programme pour lequel vous pensez être celui qui doit pouvoir apporter les bonnes solutions au football africain, et j'estime que donc, eux quatre, s'ils combinent leur programme, si tant est qu'effectivement que l'un d'entre eux allait être élu, n'est-ce pas, directement, je pense qu'il faut qu'ils travaillent sur un bon consensus.
Mais est-ce que cela risque-t-il d'arriver si la FIFA n'est pas d'accord?
Non, la FIFA ne se pose pas par rapport au programme. Le programme, le consensus sur le programme, cela dépend des quatre candidats.
Donc vous dites que même si la FIFA s'ingère dans le choix du président, les Africains ont la marge de manœuvre pour pouvoir appliquer le programme qu'ils souhaitent.
Non, je pense que la FIFA ne s'intéresse pas au programme de la FIFA.
De la CAF.
Non. La FIFA peut-être s'intéresse sur la personne qui doit être sur le siège de la CAF. Et comme ils l'ont dit, parce que moi j'ai lu, hein, que simplement ils voulaient avoir quelqu'un qui est en dehors, qui n'a jamais été, n'est-ce pas, dans les méandres de la CAF ou de la FIFA. Un homme nouveau, neuf, pour effectivement pouvoir attirer les sponsors.
Merci.
Mais comme je dis, moi, ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas la personne qui est sur le siège. Ce qui m'intéresse, c'est la réflexion qui sera autour du programme qui sera mis en œuvre par la CAF pour développer le football africain. Moi, c'est ça qui est le plus important pour moi.
Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Tanou Diallo, élu dans ces conditions, qui va essentiellement profiter hein, de l'arrivée du nouveau président? Est-ce que ça va être le football africain à travers le programme qui sera mis en œuvre, comme vient de le dire Monsieur Mar, ou finalement ce sera l'agenda de la FIFA qui va peut-être influencer essentiellement les décisions du nouveau président?
Bon, écoutez, je pense que je partage la position de Moyassine sur cette question. Au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la FIFA veut avoir un président qu'elle maîtrise, parce que tout simplement, le président de la FIFA, il a dans un coin de sa tête les élections au niveau de les élections de la FIFA à venir. Donc lui, il veut être réélu. Donc du coup, il veut avoir.
Il y a aussi les réformes que la FIFA souhaite apporter, par exemple à l'organisation de la CAN, qui pourrait peut-être facilement passer avec un président qui serait, dit-on, à sa solde.
Ça peut revenir sur la table, mais je pense que, pour avoir discuté avec beaucoup de présidents de fédération, je pense que les Africains ne sont pas prêts à disputer une CAN tous les quatre ans. Parce que, rappelez-vous, il y a quelques jours, on a même vu une proposition de l'ancien coach d'Arsenal qui voudrait même qu'on joue la Coupe du Monde tous les deux ans et la Coupe d'Europe tous les deux ans. Donc déjà qu'il y a une proposition comme ça sur la table ici, au niveau de la FIFA, les Africains, ils ne sont pas prêts. Donc du coup, c'est ce que je voulais dire, la FIFA veut juste avoir déjà en Afrique des gens qu'elle maîtrise par rapport aux élections à venir au niveau de cette institution-là. Donc le reste, au niveau du programme, je partage l'avis de Mayassine, ça ne les intéresse pas. Tout dépendra de comment nous, les Africains, on se mettra autour de la table pour mettre à exécution ce programme-là. Et je pense que les gens qui sont là, comme je l'ai dit tout de suite, c'est dans tout ce groupe-là, c'est le président Senghor que je connais mieux. Je sais que lui, il sera autour de la table, c'est pour parler du développement du football africain. Il ne sera pas là pour faire la politique, il sera là pour parler du développement du football africain.
Merci
voilà,
beaucoup.
Donc c'est ce qui est le plus important pour la FIFA, c'est comme je l'ai dit, pour ne pas se répéter, c'est juste avoir la même mise sur ces présidents-là et s'assurer qu'il a 54 voix quand il y aura les élections au niveau de la FIFA.
54 voix pour les 54 fédérations. Roger Mila, voilà, alors, exactement. Quand on écoute messieurs Mar et Diallo, on a l'impression qu'il n'y a pas péril en la demeure, même si les élections se passaient finalement vendredi dans les conditions que nous décrions et que vous décriez. Et que finalement, il y aura peut-être une véritable mise en œuvre du programme véritablement qui pourrait permettre de développer le football africain.
Mais moi, je dis sincèrement, quel est le programme que la FIFA a déjà mis en place en Afrique? C'est une insulte aux Africains. C'est comme si nous ne savions pas jouer au football. C'est comme si les Africains ne savaient pas jouer au football.
L'inquiétude était que peut-être le choix du nouveau président imposé par la FIFA empêcherait ce nouveau président de travailler pour le football africain. Mais là, les autres intervenants affirment que même s'il y a un président choisi par la FIFA, il lui revient de pouvoir travailler pour imposer et appliquer un programme qui va dans le sens du développement réel du football africain. Vous pensez que c'est possible?
Madame, moi je pense que M. Diallo vous a tout dit là. Le président de la FIFA, M. Infantino, en train de faire tout cela, tout simplement parce qu'il a besoin de 54 voix de la FIFA pour les prochaines élections de la FIFA. Mais même en faisant cela, il n'est pas sûr qu'il va avoir les 54 voix. Sincèrement, moi je vous dis, il n'est pas sûr d'avoir les 54 voix pour le gagner. Il a peur de quoi? Il est le meilleur président de la FIFA. Il a peur de quoi? Même le président Blatter, moi j'ai travaillé, j'essaie de travailler avec le président Blatter, je n'ai jamais vu cela. C'est ça le président. Hein? C'est ça le président. Les présidents ne vont pas corrompre les autres présidents.
Monsieur Mila, est-ce que vous accordez quand même le bénéfice du doute au prochain président, quel qu'il soit?
Ah mais bien sûr. Quel qu'il soit, il a un bénéfice de doute, hein, automatiquement.
D'accord. Donc,
je suis un peu
qu'il pourrait peut-être s'affranchir de la FIFA et travailler vraiment pour le foot africain.
Non, mais s'il n'a pas été choisi par la FIFA, il va travailler pour les Africains. Il est obligé. Il ne peut pas être choisi par les Africains et il va travailler avec la FIFA.
Merci beaucoup. Merci, Monsieur Roger Mila, ancien international camerounais et ambassadeur itinérant en ligne de Yaoundé. Merci, Mayassine Mar, directeur technique de la Fédération sénégalaise de football de Dakar. Et Tanou Diallo, journaliste et expert média à la CAF à Bruxelles. Merci de nous avoir suivis.